Vous écoutez France Culture.
Réplique, la révolution numérique avec Cédric Biagini et Bruno Patino. Changer le monde, changer la vie, le changement dans la continuité, le changement c'est maintenant. Ainsi parle la politique. Mais la grande promesse dont elle est porteuse, ce ne sont ni ses militants, ni ses représentants qui l'ont réalisée, c'est Steve Jobs. Et par Steve Jobs, j'entends bien sûr les nouvelles technologies, ordinateurs, tablettes, smartphones. Avec la révolution numérique, la vie n'est plus la même, un nouveau monde est né, un nouvel homme peut-être est apparu. Mais le monde ancien n'ayant pas tout à fait disparu, il est encore temps de comparer et de s'interroger sur le sens comme sur la valeur de cette révolution. C'est ce que nous allons tâcher de faire avec Bruno Patino et Cédric Biagini. Bruno Patino a dirigé France Culture de 2008 à 2010. Il est aujourd'hui responsable des programmes et du développement numérique sur France Télévisions et il publie « La condition numérique », un livre coécrit avec Jean-François Fogel. Cédric Biagini anime les éditions « L'Échappée » où il publie « L'emprise numérique, comment les nouvelles technologies ont colonisé nos vies ». Je partirai de ce spectacle partout visible que vous décrivez au début de votre livre, Bruno Patino. Visage penché sur un écran, écouteur aux oreilles, mais dont les doigts se partage la tenue d'un support et le contact avec ses touches. Il s'agit de bloguer, skyper, tweeter, poster, naviguer, envoyer et relever des SMS et des mails, googliser et par-dessus tout, ne pas perdre la connexion. Je suis connecté, donc je suis. Que vous inspire un tel tableau, Bruno Patino ?
Alors bonjour Alain Finkielkraut, oui évidemment dit comme cela et nous l'écrivons, c'est le spectacle d'une humanité qui aime sa connexion, peut-être même on pourrait dire qui en est dépendante ou qui en est dépendante de façon croissante, mais pour nous ça n'est pas le spectacle d'une humanité pour autant virtualisée, c'est une humanité dont la réalité change par le fait d'être connectée. Et donc ce qu'il veut dire pour nous c'est que cette connexion-là dans laquelle nous nous plongeons, elle est certes due à l'arrivée ou aux révolutions techniques ou technologiques que vous avez mentionnées, mais surtout, ces révolutions techniques ou technologiques, d'une certaine façon, nous ont plu. Ça nous a apporté quelque chose. Et si, avec Jean-François Fogel, on a une conviction, c'est que l'opposition que l'on faisait, que peut-être nous-mêmes faisions d'ailleurs entre monde virtuel autrefois et monde réel, c'est-à-dire d'une humanité qui oublierait sa réalité pour se plonger dans les délices d'un monde virtuel, nous battons en brèche, ou nous essayons tout du moins de le faire, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, être connecté influe sur votre réalité. Être connecté vous permet d'aimer, de vous rencontrer, de vous cultiver, de vous divertir, d'être en relation avec les gens, non pas en mettant un terme à votre façon d'aimer, de vous cultiver, mais en l'étendant ou en la modifiant. Et c'est ce qui nous a paru intéressant, et en tout cas, c'est ce que nous avons essayé, dans ce livre, nous avons essayé de donner quelques cadres pour penser à cette modification de la réalité qui est la nôtre.
Cédric Biagini.
Alors en effet, le développement des technologies est un processus matériel, c'est-à-dire c'est l'arrivée d'écrans, l'arrivée de machines dans nos vies, Dans un processus, comme l'expliquait un des penseurs de la technique du XXe siècle, un des grands penseurs, Jacques Ellul, d'auto-accroissement, c'est-à-dire qu'une nouvelle technologie va amener la création d'une technologie qui est proche. Par exemple, le smartphone a permis le développement de millions d'applications qui, elles-mêmes, vont avoir un certain nombre d'influences. Mais ce développement des technologies, et ce, depuis les débuts de l'informatique, est toujours accompagné de la diffusion d'un discours très fort, et d'un discours que je qualifierais de nature utopique. Et ce discours a été pensé, a été conçu, je pense que c'est très important de voir à quel moment, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, avec des gens qu'on appelle les cybernéticiens, donc la cybernétique, la science des systèmes autorégulés, des gens qui avaient pour objectif de reproduire de manière artificielle le cerveau humain, avec à leur tête Norbert Wiener, donc le grand pape de la cybernétique, qui sortait complètement traumatisé de la Seconde Guerre mondiale et de la barbarie, et qui pensait que la pensée humaniste avait échoué dans sa tentative de rendre une société juste et vivable, puisqu'elle avait mené à la barbarie. Et ces cybernéticiens, ces scientifiques américains, ont réfléchi à la manière de créer un monde qui serait administré par des machines, qui par définition prendraient des décisions politiques beaucoup plus rationnelles, seraient détaché des affects. Donc il pense un monde où tout ne serait que communication, communication universelle permanente qui amènerait un ordre social pacifié. En gros, pour le dire plus simplement, c'est le remplacement du gouvernement des hommes par l'administration des choses. Et ce discours qui a accompagné le développement de l'informatique, si la cybernétique, elle, a échoué dans son projet à reproduire l'intelligence artificielle, ce discours s'est maintenu. Et ce discours a ressurgi au cours des années 90 avec le développement d'Internet, la démocratisation d'Internet et des nouvelles technologies. Et ce discours relève, pour moi, d'une dimension religieuse. Je parle réellement d'une vision, mais la vision au sens fort, d'une vision du monde dans lequel tout se réduirait à de l'information. Tout ne devrait être qu'échange, mouvement, interaction, pure communication. Donc dans cette nouvelle forme de religiosité, le bien adviendrait si l'info circule, s'il y a du flux, de la connexion, de l'ouverture, de la transparence. Il faut communiquer tout le temps, d'humain à humain, au travers de machines, par exemple avec les réseaux sociaux, des humains aux machines, des machines aux machines, comme on va le voir avec le développement d'Internet. Donc, dans cette idée de communiquer en permanence, le mal surgit lorsqu'il y a de la friction, du hasard, de la matérialité, la loi, le corps, qui pourrait empêcher l'information de circuler. Nous sommes donc dans un cas, dans une configuration où l'homme se réduit de plus en plus à être un émetteur et un récepteur d'informations sans intériorité. Son intériorité personnelle se serait déversée dans une extériorité numérique dans laquelle finalement la distinction entre le vivant, le non-vivant serait de moins en moins efficiente. Nous serions dans un continuum informationnel et l'humain serait un maillon d'un gigantesque système communicationnel. Le philosophe allemand Günther Anders avait déjà prédit dès les années 50 dans son livre « L'obsolescence de l'homme » qu'à l'avenir, humains et machines seraient des vivants qui vivent d'une même vie.
Qu'est-ce que vous pensez de cette description utopique et inquiétante en même temps, Bruno Patino ?
Écoutez,
j'aurais une question à poser moi-même.
Écoutez, en ce qui me concerne, je pense que on ne peut aujourd'hui prétendre qu'il y a un discours unique pour un système unique. C'est-à-dire que la pensée cybernéticienne soit effectivement équivalente à ce qui vient d'être dit, c'est une évidence, mais qu'elle structure aujourd'hui, voire qu'elle est le monopole d'un discours totalement structuré sur ce qui advient aujourd'hui dans ce que nous appelons la condition numérique, je ne le crois pas. De même que je ne crois pas que ce à quoi nous assistions aujourd'hui soit la mise en place d'un système cohérent et global absolument unique. Je pense qu'au contraire, ce qui nous semble intéressant, c'est que, évidemment, la cybernétique, évidemment, la volonté à un moment donné de déléguer à des machines un certain nombre de fonctions jusqu'ici réservées à l'humain, hein, la fonction du choix, la fonction de la décision, ont des conséquences réelles sur ce que nous vivons. Mais malgré tout, je ne pense pas qu'on soit dans la création d'une nouvelle humanité ou d'un nouvel ordre. Je pense que c'est beaucoup plus balancé que ça, que la réalité modifiée qui est la nôtre aujourd'hui porte en elle autant de promesses d'aliénation que de promesses d'émancipation. Que par rapport au discours d'aliénation totale qui vient de nous être livré et auquel on peut adhérer, de la même façon qu'on peut adhérer à un discours utopique total, je pense que la complexité de ce qu'on vit est porteuse de beaucoup de questions qui ne sont pas résolues aujourd'hui.
Mais alors, tout de même, il n'y a pas de nouvel ordre d'Internet, mais je me demande si on ne peut pas parler d'un nouveau désordre. L'utopie des cybernéticiens ne s'est pas réalisée. On n'est pas passé de l'administration des hommes à l'administration des choses. Ce que voulait, semblait-il, Wiener, en tenant compte du fiasco de l'humanisme après la Seconde Guerre mondiale, reste quand même une sorte de revendication démocratique face à l'élite. Internet, c'est un espace où tout le monde peut parler, où tout peut être dit. Donc, la démocratie conteste le rôle des élites et l'immédiat vainc toutes les médiations. Cette utopie-là, me semble-t-il, se réalise. Et c'est pourquoi d'ailleurs Bruno Patineau, personnellement, je n'aime pas que l'on parle d'Internet en termes d'aliénation. Là, cette démocratie radicale ne relève pas de l'aliénation, elle satisfait un désir à l'œuvre dans notre société, mais ce n'est pas pour autant que je la trouve très rassurante. Mais que pensez-vous justement de ce nouveau désordre numérique, Bruno Patineau puis Cédric Badinier?
Alors, je parlais d'aliénation plus en termes économiques qu'en termes politiques. En termes politiques, vous avez raison, si vous voulez, la compression du temps rend la notion même de corps intermédiaire difficilement tenable, parce qu'un corps intermédiaire, par essence, ça prend du temps et ça prend de l'espace, et qu'aujourd'hui, dans quelque chose qui s'organise en réseau, en itération permanente, on est tous l'intermédiaire de quelqu'un d'autre et tous le corps intermédiaire, paradoxalement, de quelqu'un d'autre. Et donc aujourd'hui, ça n'est pas un hasard si, évidemment, les corps intermédiaires qui ont structuré une démocratie qu'Aron pourrait appeler quand même industrielle, c'est-à-dire des représentants élus, des médias qui ont un temps de production est aujourd'hui mise en difficulté par l'arrivée de l'immédiateté du réseau. Quand vous parlez de démocratie radicale, ça, le mot radical renvoie évidemment à des échos compliqués. L'hyperdémocratie, c'est un mot que j'ai tendance à préférer, pour des raisons qui vous sont claires. Je pense que cette hyper-démocratie-là n'a pas encore trouvé sa stabilisation. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la formation de l'opinion ne s'est pas, d'après les études, notamment nord-américaines, modifiée dans la façon dont elle se fait, mais qu'il y a deux choses qui ont été apportées par le numérique. D'une part, c'est la rapidité avec laquelle les coalitions éphémères se forment et se déforment autour d'un point de débat à un moment ou un autre, et d'autre part la tendance amenée par l'itération du réseau à avoir ce que les sciences politiciens américains appellent « winner takes all democracy », c'est-à-dire où une opinion l'emporte totalement sur une autre. Et donc ces deux phénomènes de rapidité ou plutôt de coalition éphémère et de radicalisation des positions semblent structurer aujourd'hui une expression démocratique à laquelle les pouvoirs, l'organisation des pouvoirs et l'organisation des élections aujourd'hui n'est pas en mesure de répondre.
Cédric Badinier.
Alors, je pense que les élites, telles que vous les décrivez, n'ont pas disparu et ne sont pas fragilisés. En revanche, ce qu'on voit, c'est comme... Je parle notamment des élites économiques.
Ah oui, d'accord.
Des élites économiques, et même des élites intellectuelles. Quand il y a des changements techniques importants, comme il y a pu avoir au 19e siècle, par exemple, avec l'industrialisation, de nouvelles élites émergent. Et notamment, dans le cas des nouvelles technologies et d'Internet, on a vu émerger à l'échelle mondiale, puisque maintenant les choses se pensent à cette échelle-là, des entreprises d'une puissance telle qu'on n'en avait jamais vu. Je pense aux entreprises comme Facebook, Google, Twitter, Microsoft ou Amazon, qui vont changer, comme vous l'avez expliqué dans votre introduction, notre manière de voir les choses, notre manière de penser le monde, notre rapport aux autres, notre rapport au temps, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque c'est assez important justement quand on parle de démocratie et de politique. Et ces grandes entreprises donc sont bel et bien des nouvelles élites qui pensent ce monde-là. Il ne faut pas croire que ces technologies arrivent par le bas, elles sont aussi pensées par le haut. C'est pas pour rien qu'il y a autant un appareil, je dirais, de propagande, marketing et de publicité aussi important, et même à un échelon plus local. Je pense par exemple aujourd'hui à tout ce qui se passe autour des smart cities, de la ville intelligente. Énormément de start-up et d'entreprises font un travail de lobby très important auprès des collectivités locales, auprès des mairies, pour les faire basculer dans l'ère numérique. On voit le même phénomène au niveau de l'école, au niveau du livre, secteur que je connais bien. On voit par exemple que la France, on nous dit tout le temps, oui, regardez, la France est en retard sur le livre numérique, etc. Bon, on pourrait se demander, en retard par rapport à quoi ? Parce que qui est-ce qui donne ce tempo, vers où aller ? Là est véritablement la question. Mais on nous dit, la France est en retard, mais il y a un important travail de lobby qui est fait pour que les bibliothèques s'équipent en liseuses, en readers. Voilà, donc il ne faudrait pas croire que ces technologies viennent uniquement du bas et qu'elles s'opposent à des élites. Des élites ont bien compris que l'économie de demain serait l'économie de l'immatériel. Il suffit de lire le rapport de 2006, par exemple, de l'État français sur l'économie de l'immatériel. C'est acquis pour ces élites économiques que nous devons basculer dans le numérique et que le numérique sera le moteur de la croissance.
Oui, mais alors, l'offre est celle-là. Cependant, la demande aussi est très forte, c'est ainsi qu'on cherche à la satisfaire. Mais vous avez parlé de l'école, Cédric Biagini, alors arrêtons-nous un instant à l'institution scolaire. En effet, la pression sociale est extrêmement puissante et il y a une exigence qui se fait jour, numériser l'école, numériser les nouveaux outils pédagogique. Le tableau noir doit être remplacé, les cahiers de texte doivent être numériques, les professeurs, il est exigé d'eux qu'ils s'adaptent aux nouvelles technologies. Les livres, peut-être, vont être remplacés un jour ou l'autre. Les manuels scolaires. Donc, ma question est celle-ci, et je m'adresse à l'un et à l'autre. Pensez-vous que on doit continuer d'aller dans cette direction. Quels problèmes de l'école seront résolus par la numérisation des outils pédagogiques ? Et où y a-t-il des problèmes que cette numérisation pourra créer ? Bruno Patineau.
Alors, d'abord, ce n'est pas la même question que vous avez posée à Alain Finkielkraut en disant « Pensez-vous que nous devions aller dans cette direction-là et quel problème de l'école sera résolu par le numérique ?» Le numérique en tant que tel, à mon avis, ne résoudra aucun des problèmes de l'école. La question qui s'oppose toujours est d'un balancement compliqué entre l'adéquation du milieu scolaire à la société et aux usages qui sont celles aujourd'hui des élèves et des professeurs, et que voudrait dire d'une école qui refuserait toute apparition d'écran dans un univers où les écrans sont partout et sont devenus pour beaucoup le relais ou la fenêtre ou la façon d'accéder à quelque chose. Et en même temps, que voudrait dire une école qui abandonnerait une partie des outils qui seuls aujourd'hui sont capables d'établir un certain nombre de liens de causalité ? Ce sur quoi on étudie en ce moment, c'est qu'on n'apprend pas de la même façon sur écran et sur livre imprimé. Et c'est absolument indubitable. Toutes les études cognitives aujourd'hui qui ont lieu montrent que l'écran vous fait percevoir un certain nombre de choses de façon fractale que vous ne percevez pas dans le livre imprimé et que le livre imprimé vous permet en revanche de percevoir notamment les liens de causalité qui sont absolument essentiels.
Donc, non, mais c'est ce que donc je la dis. Causalité n'a pas besoin des écrans. Elle doit peut-être être protégée des écrans.
La causalité n'a pas besoin des écrans. Et donc, aujourd'hui, malgré tout, on voit que l'école essaye d'être à la fois en écho avec les évolutions sociales, c'est-à-dire maîtriser ses écrans, savoir les utiliser. Savoir faire une recherche, ça n'est pas aussi simple que ça. Savoir se mouvoir dans un univers numérique n'est pas aussi simple que ça, sans pour autant oublier la raison d'être de l'école, c'est-à-dire la transmission des liens de causalité. Et donc, je fais partie, à titre personnel, des gens qui pensent que le numérique doit rentrer dans l'école sans pour autant se substituer aux outils qui y sont présents. Et qu'après, là où il y a eu une sorte d'utopie technologique ou technologiste de l'école, c'est que l'école a voulu produire ses propres outils numériques. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, les domaines dans lesquels ça fonctionne, c'est quand les élèves peuvent apporter leur propre outil à l'école. Ce qui est une chose très différente.
Alors le Cédric Biagini, je donnerai ma réponse aussi.
Le basculement numérique de l'école est assez avancé dans certains pays comme aux États-Unis, notamment je pense en Californie, où des manuels scolaires en papier ont disparu, où un certain nombre de cours se font même sans professeur. Moi, je pense que c'est l'horizon qui se profile. Tout d'abord, on nous dit, oui, les deux modes doivent exister. Le mode présentiel, vous imaginez, la présence physique, maintenant on appelle ça le mode présentiel. Parce qu'on estime qu'en fait, le mode numérique, le e-learning, est tout aussi important que l'autre. Donc, ce qui était pour jusqu'alors quelque chose d'entendu, qui était donc le fait qu'un adulte qui détenait un certain savoir légitime que lui avait conféré une institution, qui représentait la société pour transmettre des connaissances qui venaient des anciens, qui venaient d'une histoire, est aujourd'hui considérablement fragilisé. Vincent Peillon déclarait qu'il voulait qu'à la fin de son mandat, tous les élèves soient équipés de tablettes numériques. On sait que les universités françaises veulent, je crois, pour 2015 ou 2017, que 20% des cours aient lieu en e-learning. Donc, ce qui est en jeu, c'est réellement l'éclatement, pour moi, de la classe, et notamment qui passera par la personnalisation des parcours avec des services individualisés qui viendront directement donc, de l'industriel, du numérique, vers l'élève, avec un professeur qui se transformera, et ça c'est écrit dans le rapport Fourgous, le rapport de 2010, le rapport parlementaire sur l'école numérique, en ingénieur pédagogique. C'est-à-dire que son rôle sera, c'est pas encore, pour l'instant serait, on peut encore mettre du conditionnel.
C'est bien de mettre de conditionnel un peu, parce que si vous voulez, il y a beaucoup de futurs simples dans vos déclarations, mais tout ça se joue en ce moment. Et donc affirmer, voilà ce qui va se passer, oui, évidemment, mais peut-être peut-on mettre un peu de nuance dans ce propos.
Je pense que nous avons quand même des tendances lourdes, et c'est difficile de mettre de la nuance, je pense, quand on parle d'un déferlement numérique dont on est abreuvé en permanence, avec un système de propagande d'une ampleur qui n'a jamais existé, complètement inédite, et dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, où on voit, moi je travaille par exemple dans le livre, où on voit le numérique pénétrer, et on voit comment ce numérique pénètre. Alors juste sur l'école, je voudrais donc finir là-dessus, sur le fait que ce professeur, s'il existe encore, se transformera en ingénieur pédagogique, qui est là pour faire naviguer les étudiants dans un savoir, comme si, en fait, l'acquisition des connaissances, aujourd'hui, se réduisait à une masse de connaissances numérisées disponibles en permanence, alors qu'on sait très bien que ce sont les médiations qui permettent d'acquérir le savoir, que cela passe par de la lenteur, passe par la répétition, passe par une forme de discipline, passe par du systématisme et passe même parfois par de l'ennui. Et l'école aujourd'hui est d'ores et déjà, je veux dire, ça ne va pas se projeter dans le futur, est déjà de plus en plus fragilisée, de plus en plus mise en concurrence par des modes, on va dire, d'acquisition de savoir, mais qui n'en sont pas réellement, qui jouent sur le fun, la rapidité, la surface. C'est pour ça que l'école, dans les projets d'école numérique, il y a l'idée d'introduire dans l'école les jeux vidéo sérieux, ce qu'on appelle les serious games. Et cela produit une école, et on peut déjà le ressentir pour tous les gens qui enseignent, avec des élèves qui délégitiment de plus en plus les savoirs qui sont appris à l'école, qui n'arrivent plus à se concentrer, qui n'arrivent plus à développer des capacités d'attention, qui ont besoin d'être dans des états d'excitation permanence, qui ont besoin d'être sursollicités et qui demandent sans cesse à quoi sert ce qu'on leur apprend. C'est quelque part le triomphe des savoirs instrumentaux.
Alors justement, je voudrais intervenir un peu dans le même sens. Il me semble qu'une confusion est en train de naître avec ces nouvelles technologies et leur côté magique. Une confusion entre l'accès à la connaissance et la connaissance elle-même. Mais il y a aussi autre chose. J'ai sous les yeux un livre très intéressant dont vous avez peut-être entendu parler, que vous avez peut-être lu, d'une journaliste américaine d'origine australienne, je crois, Suzanne Mousehart. Pause. Et le sous-titre, « Comment trois ados hyperconnectés et leur mère ont survécu à 6 mois sans le moindre média électronique ». Mais il y a une anecdote très intéressante. elle nous demande, elle aussi, de regarder quelque chose, un autre spectacle, celui de sa fille, Susie, qui trime dur, car elle doit écrire un devoir sur le poète E.E. Cummings. Et là, tout de suite, elle n'a pas moins de 9 entrées actives sur le bureau de son ordinateur portable. 6 d'entre elles sont ouvertes pour autant de conversations de messagerie instantanée qui n'ont aucun rapport avec le travail scolaire en question. Une 7e fenêtre siphonne également le tout dernier épisode de La vie secrète d'une ado ordinaire, tandis qu'une 8e suit les enchères en ligne d'un couple de perruches nymphiques. Ce sont des oiseaux de compagnie. Et voilà, elle fait 10 choses à la fois. Et sa mère est affolée, c'est une des raisons pour lesquelles elle choisit la déconnexion. Et beaucoup de parents ont ce problème avec leurs enfants, ils sont trop connectés. Ils sont trop connectés, ils parlent même d'addiction à l'ordinateur. Et il me semble qu'avec la numérisation de l'école, pour la première fois dans l'histoire de la toxicomanie, on désire soigner une addiction par l'augmentation massive des doses. Et j'ai trouvé dans votre livre, Cédric Belghini, si vous voulez, de quoi confirmer ce paradoxe et cette inquiétude, parce que ces élites dont vous parlez, le directeur technique d'eBay, les cadres supérieurs de Google, Yahoo et Apple envoient leurs enfants dans des écoles déconnectées. Seulement du papier, des stylos, des aiguilles à tricoter, parfois de la terre glaise, de bons vieux tableaux noirs, des pupitres en bois et des encyclopédies sur des étagères contribuent à l'ambiance rétro. Et bien sûr, parce que il y a la conviction chez eux que la technologie n'y améliore pas le niveau des élèves. Et il y a la conviction que la technologie divertit les élèves, les détourne du savoir. Celui qui va sur Internet a toutes les chances de se retrouver à faire autre chose que de la recherche, lire la bourse, les résultats sportifs, chatter sur MSN. Et donc, ces concepteurs de machines, conscients du phénomène d'addiction qu'ils créent, veulent en préserver leurs enfants. Donc, moi, je me demande si précisément le rôle de l'école dans cet univers, ce ne serait pas de se déconnecter, parce que la connexion viendra à côté. Après tout, on n'a pas introduit le téléphone quand on a inventé le téléphone, on n'a pas introduit la télévision quand on a inventé la télévision. Pourquoi donc introduire les ordinateurs? Alors, Bruno Patineau.
D'abord, une chose, parce que, évidemment, je ne participerai ni à la vision apocalyptique, ni à la vision utopiste. C'est-à-dire, je ne pense pas, encore une fois, que tout ça relève d'un système. Je pense, en revanche, d'abord, juste, quand moi j'étais à l'école, on a introduit la télévision. J'ai vu la télévision à l'école pour la première fois de ma vie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez, je suis absolument convaincu d'une chose que vous avez dit, Alain Finkielkraut, c'est-à-dire qu'il va falloir que nous apprenions tous à gérer la déconnexion à un moment donné. Et qu'à un moment, l'école puisse apprendre soit la déconnexion totale, apprendre, enseigner, ou enseigner ce que les gens commencent à prendre le slow web, c'est-à-dire la maîtrise du rythme de sa connexion et de son attention, je pense que ça fera partie, à un moment donné, des enseignements de l'école, si elle veut pouvoir toujours s'adresser à des élèves qui aient quelque chose à voir avec elle, et surtout si elle veut toujours participer à l'émancipation des élèves. Je ne pense pas du tout que le fait d'être connecté, je ne vous l'ai dit à aucun moment, soit une libération. Je dis juste que je m'aperçois, avec Jean-François, nous nous apercevons, que l'humanité adore se connecter.
Ah oui,
oui, mais
bien sûr,
voilà.
Oui, c'est vrai.
Mais bien sûr. Et que donc, à un moment donné, soit on peut partir du principe qu'il faut qu'il y ait des lieux absolument préservés de toute connexion, ce qui est possible. Je le souhaite moi-même. Moi-même, quand je vais au cinéma, au concert ou dans d'autres lieux, je souhaite que ces lieux soient déconnectés. Je n'ai pas envie que ces lieux doivent être connectés. En revanche, je pense que l'apprentissage de la déconnexion ou l'apprentissage de la maîtrise de sa connexion va devoir faire partie des enseignements de l'école si elle veut, encore une fois, promouvoir une émancipation des élèves. Je voudrais revenir juste par rapport au tableau qui a été dressé par Cédric Belghini. C'est que je fais partie des gens qui, malgré tout, continue à croire à l'effet jogging cher à Régis Debray.
Oui, alors c'est qu'une...
Alors, dans une civilisation automobile, les gens se sont mis à courir. Jamais personne ne courait comme ça pour son plaisir quand l'automobile n'existait pas. Et qu'on s'aperçoit quand même des tendances sociologiques qui font que le moment de l'hyperconnexion et de l'immédiateté amène aussi chez les mêmes individus une demande profonde pour ces moments de déconnexion et de maîtrise du temps. Et je ne crois pas, encore une fois, je suis personnellement relativement en accord avec Cédric Biagini sur la possible émergence ou naissance d'un hypercapitalisme numérique. Nous le mentionnons avec Jean-François dans un chapitre, mais je pense que tout se joue maintenant sur le statut de ce qui fait le capital de ces entreprises, c'est-à-dire les données. Mais je fais partie des gens qui pensent que justement tout se joue en ce moment et que les politiques publiques, ou la politique au sens noble du terme, ne consiste pas à refuser ou à accepter la condition numérique ou la connexion, l'humanité l'a déjà adoptée, mais à savoir ce qu'on en fait. Ce qu'on en fait, comment on le régule économiquement, ce qu'on en fait politiquement. Je voudrais juste terminer par un livre qui vous est cher, qui est celui d'Elisabeth Eisenstein, quand elle a décrit les 50 ou 60 années qui ont suivi l'invention de l'imprimerie. À l'époque, vous le savez, Alain Finkielkraut, le procès qui est fait dans la circulation des livres plus rapide, qui ne laisse plus le temps à la copie de se faire, la possibilité qu'on a d'annoter le livre est perçue comme quelque chose qui, là aussi, modifie l'ordonnancement du savoir. Donc je ne suis pas un utopiste en sens où je ne crois à aucun moment à l'autorégulation du système, mais je ne crois pas non plus que le système emporte par lui-même un ordre aussi apocalyptique que celui qui a été décrit. Je pense que ça nous revient de savoir, de le penser, et d'avoir, pour avoir un cadre de pensée, d'avoir ensuite un cadre d'action dans ce système-là.
Alors, sur le cadre apocalyptique, bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Je fais preuve tout simplement, je dirais, de sens critique et d'esprit critique. Ce qu'on peut de moins en moins faire aujourd'hui, et notamment par rapport à ces nouvelles technologies, où toute critique paraît impossible. Nous sommes dans une époque qui pourrait se résumer à ce slogan « Ne jugez pas, avancez ».
Oui, mais
ça, je dirais que je m'inscris dans une tradition de critique de la société industrielle qui aujourd'hui face... Je dirais au point, si jamais nous ne réagissons pas et nous ne sommes pas capables de porter un discours critique suffisamment fort, d'atteindre un point de non-retour dans lequel nous perdrons ce qui constitue pour moi la possibilité que la vie soit vivable et que les conditions d'existence fassent que nous pouvons vivre les uns avec les autres et que nous pouvons préserver une intériorité qui est pour moi gage de notre liberté. Comme disait Hannah Arendt, de toute façon, c'est l'intériorité qui permet la démocratie. Alors, et je pense qu'aujourd'hui, c'est cette intériorité qui est vraiment malmenée.
Oui, mais justement, vous voulez préserver, Cédric Biagini, votre esprit critique. Simplement, même avec le titre de votre livre, vous inscrivez dans une tradition qui est, disons, critique de l'aliénation, critique de la domination, l'emprise technologique. Or, ça plaît, comme dit Bruno Patineau, ça plaît. Il y a donc plutôt qu'une emprise, une certaine extase technologique. Et on a l'impression que vous n'osez pas franchir le pas de ce qui serait aussi une critique de la démocratie, non certes pas du régime démocratique fragile et qu'il s'agit toujours de préserver, mais d'un processus, d'un mouvement d'horizontalisation. Car il y a aujourd'hui une émeute des vivants contre les morts, Cette omniprésence du présent, du temps réel, hein, les vivants, les morts, c'est-à-dire la tradition, hein, l'autorité du temps, et puis aussi, justement, horizontalité, tout le monde parle à égalité, c'est l'utopie d'Internet. Il me semble que vous avez peur d'introduire ces éléments dans votre critique, d'où justement ce porte-à-faux où vous êtes avec les pulsions qui sont au fondement, en quelque sorte, du succès d'Internet et des smartphones et de cette hyper-connexion. Ça contente quelque chose. On est heureux de cela. Et ce bonheur-là, on ne peut pas simplement le penser en termes d'aliénation.
Alors, Bon, déjà, c'est une question qui mériterait d'être longuement développée. Donc, je vais essayer de vous donner quelques arguments. Déjà, par rapport au contentement dont vous parlez, moi, je ne le retrouve pas forcément dans la société. Je trouve qu'il y a énormément de souffrance sociale, énormément d'angoisse par rapport à l'avenir, énormément d'angoisse par rapport à la vie de chacun. Donc, je ne retrouve pas forcément cet enthousiasme par rapport au futur.
Non, en revanche, qu'il y ait une adhésion
à ces nouvelles technologies, c'est possible. Quoique, vous savez, je fais énormément de débats pour présenter le livre et beaucoup de gens viennent au débat, échangent avec moi et me disent on entend enfin un discours un peu critique. Parce que les gens ont peur aussi de critiquer ces technologies. Parce qu'immédiatement, on est traité de technophobe, de réactionnaire, de conservateur.
Oui.
C'est une critique qui est quasiment impossible. Alors que vous avez toute une partie de la population qui n'adhère pas forcément. Hein, mais c'est une majorité ou une minorité, je ne sais pas. En tout cas, silencieuse. Aujourd'hui, le temps est à l'exaltation de ces nouvelles technologies. Donc ceux, évidemment, qu'on entend le plus sont ceux qui vont défendre cette nouvelle technologie, qui eux estiment être dans l'air du temps, j'irais dans le sens du vent. Donc évidemment qu'on a l'impression de se raz-de-marée. Après que des gens utilisent ces technologies de plus en plus, de toute façon, à partir du développement, d'un certain seuil de développement d'une technologie, de toute façon, le fait de s'en passer devient de plus en plus difficile.
Oui.
À moins de décider de se marginaliser. Choix que je peux tout à fait respecter, mais qui ne peut pas être pris par tout le monde. Donc ce serait aussi, je pense, une illusion de penser qu'il y a une adhésion massive. En revanche, ces nouvelles technologies sont en effet, je pense, porteuses de certaines promesses, comme celle de pouvoir mieux maîtriser sa vie, maîtriser le temps, maîtriser son rapport avec les autres. Il y a cette volonté, et ça qui s'inscrit, je dirais, dans la contemporanéité industrielle, qui est celle de pouvoir neutraliser le monde, c'est-à-dire de pouvoir vivre éventuellement des moments d'excitation sans prendre le risque, sans qu'il y ait d'imprévu, sans qu'il y ait de hasard, sans qu'il y ait de risque. C'est tout ce que va tenter de développer les big data, par exemple, qui sont les technologies de traitement des données massives, avec la volonté de pouvoir anticiper l'avenir, avec du prédictif qui vise à sécuriser et à optimiser tous les moments de la vie. Donc il y a une volonté, une illusion, je pense, au travers de ces technologies, de pouvoir contrôler sa vie et neutraliser le monde. Mais à contrario, et c'est là que porte ma critique, je pense que ces gens qui ont l'impression de maîtriser de mieux en mieux le temps, j'aimerais tout à l'heure développer un tout petit peu la question du temps, elle me paraît assez fondamentale pour notre propos, qui pensent maîtriser mieux les relations sociales, s'affranchir de la triple obligation qui était jusque-là au cœur des sociétés, la triple obligation anthropologique de donner, recevoir et rendre, qui pensent qu'ils désormais peuvent se lier, se connecter à qui ils veulent, se relier plutôt à qui ils veulent quand ils veulent. En gros, c'est aujourd'hui hyper communiquer avec des proches ou avec des gens qu'on a choisis pour créer des îlots de similarité et s'éloigner de gens qui sont dans notre environnement immédiat. C'est ça la promesse de ces nouvelles technologies. C'est aussi de pouvoir s'affranchir des contraintes de la vie collective. Jean-Claude Michéa, que vous avez déjà reçu ici dans son dernier livre, Les mystères de la gauche, rappelait que l'expression munus veut dire charge, l'expression latine munus veut dire charge et obligation. Elle est à l'origine du terme commun et communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir encore se vivre comme une communauté, avec un avenir commun, avec un destin commun, avec des dettes symboliques, des obligations les uns envers les autres, qui est en train d'être fragilisé. Et ça, évidemment que c'est fascinant. Évidemment que les gens pensent que ces technologies vont pouvoir les libérer. Donc, il y a un phénomène d'adhésion à ces nouvelles technologies. Ce qui ne veut pas dire que derrière, ça crée du bien-être et de la liberté. Tout le contraire.
Non, mais c'est effectivement un progrès, une avancée de l'individualisme. Et moi, j'essaye aussi de maintenir un regard critique sur tout ça, mais je voudrais parfois une critique plus audacieuse que la simple critique de la domination. Et c'est d'ailleurs ce que...
Mais je ne m'inscris pas du tout dans le cadre de la domination. Si vous avez trouvé le mot domination dans
mon livre... Non, c'est sur l'emprise.
Justement, l'emprise, je pense que ce n'est pas la domination.
Oui, c'est vrai.
Je pense que l'emprise n'est pas... Moi, je suis plutôt dans une critique, et là, vraiment, c'est important pour moi, de l'aliénation. Et ce que je viens de décrire l'instant, c'est-à-dire l'illusion de s'affranchir de toutes les contraintes du matériel et du vieux monde qui, pour moi, nous fait de plus en plus dépendre, finalement, de logique d'instantanéité, de logique d'interactivité. Il faut réagir en permanence. Vous voyez, les gens sont sommés sans cesse de se mobiliser sur les réseaux numériques, d'être dans ces formes d'horizontalité, c'est-à-dire que tous les rapports, tous les repères, tout ce qui pouvait structurer la pensée sont en train de s'effacer. C'est Jimmy Wales, le fondateur de Wikipédia, qui disait, oui, sur Wikipédia, une notice écrite par un spécialiste d'Harvard aura la même valeur qu'une notice écrite par un lycéen. Bah oui. Et ce seront les internautes qui décideront. Bien évidemment, donc, je fais une critique de ça. Donc
D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci pour votre précision. Mais alors justement, Bruno Patino, vous dites dans le premier chapitre de votre livre, vous parlez de l'immédiateté d'Internet, le temps, hein, la puissance du maintenant. Tout poursuit une ambition d'immédiateté qui devient en quelque sorte une autre façon de respirer. L'axe temporel se ramène à un point unique, maintenant. Mais alors là, on a envie de se demander que reste-t-il de la culture, puisqu'elle est tout le contraire. D'abord, elle demande la solitude, le silence et la lenteur, ces trois conditions de possibilité de l'entretien des vivants avec les morts sont aujourd'hui attaquées en même temps par les nouvelles technologies. Et là, on se dit, c'est ça d'ailleurs l'inquiétude des parents quand ils veulent que leurs enfants se débranchent. C'est bien précisément pour qu'ils puissent se brancher sur autre chose. Et où voyez-vous la moindre ambiguïté du côté des nouvelles technologies?
Mais encore une fois, puisqu'on parle de pensée critique, avec Jean-François Fogel, nous avons essayé d'essayer modestement de penser ce qui nous arrivait, de façon critique, je le pense, mais en nous observant nous-mêmes, si j'ose dire, nous les individus, parce que je vois l'attirance que ça provoque. Moi-même, je cède à cette attirance-là. Je ne suis pas un utopiste du tout du numérique, mais je vois que les usages numériques se développent. Et la question qu'on se pose, c'est qu'évidemment, ça amène beaucoup d'ambiguïté. Je ne pense pas que nous soyons absorbés par le numérique. C'est ça que je suis en train de dire. En tout cas, que se joue là, le degré d'absorption se joue. Alors, sur le rapport au temps, et c'est ceci de particulier, que c'est un présent où le passé est omniprésent. Nous l'écrivons à un moment donné. C'est très étrange, le temps réel du numérique, parce qu'il horizontalise tout le passé. Je veux dire, dont on a peine à distinguer le début, la fin, le moment, tout ce passé nourrit notre présent. Et donc, ce rapport au temps est complètement différent. Il est effectivement très compliqué du point de vue de la culture, puisque si vous avez à la fois ce rapport au temps qui est modifié, et par ailleurs, cette horizontalité de la présentation des différentes cultures, et le fait qu'à un moment donné, on cite cette phrase que petit à petit, dans cet univers du réseau, on est moins vers la connaissance que dans la reconnaissance des formes. C'est-à-dire qu'on cite cet exemple que Mozart peut être aussi bien un chocolat qu'un opéra rock ou qu'on le sait encore. Ça ne veut pas dire que tout se vaut, mais tout est présenté à peu près de la même façon. Et alors on peut considérer deux choses, c'est toujours la même chose. C'est que soit on va être absorbé dans cet univers sans le maîtriser à aucune façon. Encore une fois, cet univers a 15 ans. 15 ans. Nous sommes au début de quelque chose qui est en train d'avoir lieu. Il a 15 ans. Prétendre en écrire l'histoire à 200 ou à 500 ans, j'en suis bien incapable. Ce que nous essayons de dire, c'est que d'abord, il ne nous absorbe pas complètement, que je fais partie effectivement des gens qui pensent que nous allons devoir agir et penser sur les moments de déconnexion et agir à être mieux connectés. Mais il n'en reste pas moins que sur cette espèce de place de marché dans laquelle nous essayons de nous construire une autre réalité ou une extension de notre réalité, des choses sont modifiées. Et oui, des choses sont attaquées et des choses importantes sont attaquées. Et là, la culture telle que vous la mentionnez est évidemment attaquée. La culture générale telle que vous la mentionnez, telle que nous l'aimons, est évidemment attaquée. Mais d'un autre côté, il va devoir y avoir cet apprentissage pour ne pas avoir vos connaissances dépendre de l'algorithme. Là-dessus, je partage beaucoup d'analyses.
Oui, attendez, Bruno Patino, vous dites qu'il y a un nouveau mode d'accès au savoir, un autre passage de votre livre. Le moteur de recherche est un généraliste imbattable, dédaigneux de l'organisation classique des disciplines et de l'idée d'une pensée valable pour tout. Il a généré un nouvel espace de la culture et du savoir où chacun, armé des outils numériques, trouve mieux que le bon chemin son propre chemin. Mieux que le bon chemin son propre chemin. Pour lui, aucun intellectuel, aucun spécialiste ne saurait avoir raison contre l'immense richesse d'un système où il puisse comme il l'entend. Mais je me dis que moi, j'ai une chance inouïe dans ma vie de n'avoir pas à trouver mon propre chemin. Il existait pour moi quelque chose comme les classiques. Arrêtons-nous une seconde à ce mot. Les classiques, ils sont classiques pour vous avant même que vous ayez pris la décision de les aimer. Ils sont déjà aimables. Précisément, le passé vous oriente, vous dirige, il fait autorité. Donc, j'ai lu des classiques dans cette situation, justement, d'admiration a priori. Heureusement pour moi. Et si maintenant, je me dis que les nouvelles générations seront conduites à trouver tout de suite leur propre chemin, je les plains de tout mon cœur de cette autonomie. L'hétéronomie avait du bon. Et je pense effectivement qu'Internet est en train de détruire les derniers résidus d'hétéronomie dans notre culture.
Mais si vous voulez, d'abord, vous partez du principe que les nouvelles générations ne vont vivre que dans la connexion. Nulle part, c'est joué.
Espérons.
Et bien sûr.
C'est pour ça qu'il faut développer une culture de la résistance, justement, pour que ça ne se joue pas.
Moi,
les forces en présence sont quand même vraiment déséquilibrées.
Je pense qu'il faut développer une culture de la maîtrise. Donc, j'accepte le propos de culture de la résistance. Votre livre la défend. Nous défendons une culture de la maîtrise, c'est-à-dire de la compréhension de là où on est et d'une maîtrise.
Mais je pense que là où nous nous retrouvons, les outils de nos outils. Je pense que ce sont les technologies qui nous façonnent de plus en plus.
Là où nous nous retrouvons, c'est que aucun de nous ne pense que, j'allais dire, le discours utopiste, à la fois autorégulé et émancipateur, qui serait celui de ces techniques-là ou de ces technologies-là, ne peut être porté. Nous ne le défendons ni l'un ni l'autre. Mais je pense d'abord que il se joue pour chacun d'entre nous la maîtrise de son temps connecté, la maîtrise de son temps non connecté. Et à l'intérieur de son temps connecté, la façon dont on maîtrise sa connexion. Et évidemment que les classiques doivent rester les classiques. Nous pensons, nous regardons justement qu'il faut armer aujourd'hui les nouvelles générations qui arrivent face aux algorithmes. Ne pas les refuser, mais les armer.
Je pense que ces technologies, c'est ce qui avait défini le penseur que vous citez aussi d'ailleurs dans votre livre à plusieurs reprises canadien des médias, Marshall McLuhan, qui dans son livre « Pour comprendre les médias » dès l'année 67, montrait qu'en fait, ce qui est déterminant dans les nouveaux médias, ce ne sont pas les concepts, ce ne sont pas les contenus, ce sont les processus de pensée qu'ils induisent. Et face à ces nouvelles technologies, aujourd'hui, nous avons des processus de pensée qui sont induits par l'usage de ces technologies qui sont très puissants, qui vont structurer notre rapport à la culture et notre rapport au monde. Car le numérique, c'est avant tout un écosystème de techniques d'interruption. C'est un ensemble de technologies qui captent notre attention à tout moment, qui font que le monde connecté paraît beaucoup plus vivant, beaucoup plus agréable que le monde non connecté. Parce qu'on est sans cesse sollicité, on est sans cesse dans des états d'excitation, on est en permanence aspiré par ça, ce qui paraît être une vie beaucoup plus excitante. Donc, ce numérique va conditionner nos manières de penser. Ce qui fait que, par exemple, Nicolas Kerr, journaliste américain plutôt technophile qui est devenu critique, s'est rendu compte qu'il n'était plus capable de lire Guerre et Paix. Parce que le livre était long, parce que ça nécessitait un engagement, ça nécessitait une lecture continue, soutenue, une concentration, une attention finalement au livre. Et je pense que cette attention à la lecture est en train d'être détruite par ces technologies parce qu'elle induit chez nous de nouvelles procédures, de nouvelles manières de penser qui fait que nous sommes de moins en moins capables de nous concentrer sur un seul objet, sur un temps long, de manière attentive. Et de nous engager, à la fois de nous engager dans cette lecture, mais même finalement de nous engager avec les autres. C'est pour ça que je défends dans mon livre le fait que le lien social, s'il n'est pas encore totalement détruit évidemment, est considérablement fragilisé. Parce que ce lien social qui passait par les obligations, par les dettes symboliques, comme je le disais tout à l'heure, est en train d'être complètement reconstruit au niveau de ces, par ces prothèses technologiques qui nous font fonctionner comme elles, c'est-à-dire dans l'idée de pouvoir se connecter, se relier quand bon nous semble, qui exalte en permanence la profusion. Hein, on a entre 150 et 200 amis sur Facebook. Facebook, oui. On ne communique plus par les biais de ces réseaux sociaux avec un ami dans sa singularité, avec un être, mais avec une masse indifférenciée, qu'il faut sans cesse tenir au courant de ce qu'on est en train de faire, et on est sans cesse tenu au courant de ce que les autres font en permanence.
Une dernière question, puisque malheureusement l'heure tourne. L'un des acquis de la modernité, c'était une séparation de la vie privée et de la vie publique. L'individu se concevait ainsi. Il y a des choses qui sont hors de toute compétence sociale, disait Benjamin Constant. Or, on voit un appétit de publicité aujourd'hui sur Internet qui est très étonnant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'amis sur Facebook et en même temps, on veut apparaître et on exhibe en quelque sorte sa propre vie privée. Est-ce à dire que l'individu postmoderne a rompu avec cette distinction et que ce qui apparaissait comme un trésor autrefois apparaît aujourd'hui comme une contrainte inutile. Rapidement, Cédric Biagini, puis Bruno Patino pour finir.
Il y a l'idée qu'en fait, pour que le monde soit meilleur, il faut qu'il soit transparent, que l'humain doit être transparent à la société, que la société doit être transparent à l'humain. Et Mark Zuckerberg, par exemple, quand il présente Facebook, je le cite, « L'époque où vous montriez une image différente à vos collègues de travail ou vos collaborateurs et aux autres personnes de votre connaissance va probablement être révolue sous peu. Nous n'avons qu'une seule identité. » Et je pense que ce qui nous permettait d'avoir des marges de liberté, que ce qui nous permettait aussi de nous affranchir des différents cercles, d'acquérir une autonomie, qui sont la famille, la mère, la famille, qui sont le groupe de pères, pour aller vers la société. Je pense que ces différents cercles, à partir du moment où on doit avoir une seule identité qu'on manage au travers, c'est un management de l'identité, oui, les réseaux sociaux, c'est avant tout une mise en gestion de soi, une réification de l'humain, en fait, ces réseaux sociaux, qu'on va manager, fait que ces marges de liberté dont on pouvait disposer, où nous existions dans différents espaces et nous étions quelqu'un d'autre dans différents espaces qui nous permettaient d'avoir vraiment une liberté, c'est aujourd'hui fragilisé.
Alors, Bruno Patino, pour finir.
Non, dans la pratique, si vous voulez, il y a cette phrase que j'aime bien. Vous saviez, Warhol disait « Tout le monde sera célèbre pendant 15 minutes » et maintenant, oui, les gens disent sur Internet « Tout le monde sera célèbre pour 15 personnes ». Mais au-delà de ça, non, parce que l'effet de jogging, là encore, est en train d'avoir lieu. Vous voyez qu'aujourd'hui, des gens adoptent plusieurs identités. D'abord, les réseaux sociaux, sans rentrer pour autant dans leur défense, recréent des cercles, vous permettent de recréer des cercles entre différents cercles d'amis ou pas, et vous voyez arriver quand même chez de nombreux individus le fait effectivement de développer plusieurs identités dans ce même univers-là. Et donc, oui, la frontière entre public et privé a de temps en temps tendance à s'estomper et c'est quelque chose d'extrêmement grave. En revanche, l'enchaînement ou la servitude d'un individu à une identité unique pour tout le monde n'est pas un phénomène que j'observe aujourd'hui.
Merci beaucoup. Merci Bruno Patino. Merci Cédric Biagini. Donc je rappelle rapidement le titre de vos livres. L'emprise numérique, Cédric Biagini, aux éditions L'Échappée. Bruno Patino avec Jean-François Fogel, vous avez écrit La condition numérique. Cet essai est publié aux éditions Grasset. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Anna El-Fakir. À la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.